Bonjour, ici François Nardou, depuis les studios du Boulevard. Je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet de saison et qui nous fera nous plonger dans les plus lointaines racines de la culture occitane et européenne en général, à savoir les fêtes de Pâques. Le dimanche des Rameaux, semaine sainte, fête de Pâques. Alors, cette fête de Pâques, qui est fixée actuellement au premier dimanche après la pleine lune de l'équinoxe de printemps ou pleine lune qui suit l'équinoxe de printemps. Cette fête de Pâques change de date dans le calendrier solaire d'une année à l'autre. Cette année, elle est fêtée le 17 avril. Elle peut être fêtée depuis le 22 mars jusqu'au 25 avril. C'est donc une fête à date mobile et qui s'insère dans un calendrier lunaire. Bien. Alors, cette fête de Pâques, en occitan, c'est Pascos, qui vient du latin Pascae, lui-même emprunté à l'hébreu, Pessah, hébreu qui se réfère à une racine probablement égyptienne du type Poser ou Passer. Cette fête donc de Pâques, fête de la pleine lune de l'équinoxe de printemps, nous évoque les plus lointaines racines de notre culture. C'est une fête qui hérite de celle de l'Égypte ancienne, lors du historico-mythico-légendaire séjour des Hébreux en Égypte. En Égypte, vue depuis le lieu de Memphis, ancienne Héliopolis des Grecs, l'actuelle Le Caire, au 21 mars, on déterminait le passage du soleil à l'équinoxe. C'est ce jour-là que le soleil se trouve à la verticale, que le soleil frappe la grande pyramide en dégageant des ombres et en dessinant au sol des lignes directrices. C'est un 21 mars que mythiquement et historiquement a été fondé le Caire, dont le nom veut dire en arabe Al-Kahirat, la victorieuse. Cette fête de Pâques, donc, a des origines égyptiennes. C'était une fête des céréaliers, des cultivateurs de céréales. C'était une fête de la moisson des blés, qui se situe en Égypte beaucoup plus tôt que dans nos régions. C'était donc une fête qui tournait autour de la production du blé et de la fabrication du pain. D'où, dans le judaïsme ancien et contemporain, la consommation de pain non levé. Rite fondé sur le récit de l'Exode. C'était en Palestine une fête des troupeaux, une fête des bergers et des éleveurs de moutons, d'où le sacrifice de l'agneau de Pâques. Cette fête de Pâques chrétienne est en fait donc une fête qui, à travers la célébration et la commémoration pendant la semaine sainte, de la passion, de la mort, puis au dimanche de Pâques, de la résurrection du Christ. C'est donc une fête qui rassemble dans son cadre, comment dirais-je, symbolique, théologique, qui rassemble les apports de cultures successives différentes. Égypte, Proche-Orient, Palestine, monde chrétien. Cette fête a une date mobile, je vous le disais tout à l'heure, et ce qui montre bien à quel point elle a pu rassembler différents apports culturels, c'est que sa fixation par l'Église aux siècles qui sont pour nous ceux de l'Antiquité tardive et du Haut Moyen-Âge, cette fixation a suscité bien des querelles qui ont pu aller jusqu'à des schismes et à des anathèmes, des excommunications. Car certains chrétiens des premiers siècles, jusqu'à une époque qui correspond pour nous à celle du règne de Charlemagne, certains chrétiens tenaient les uns à conserver pour la célébration des fêtes de la semaine sainte et de Pâques, tenaient donc à conserver le calendrier hébraïque, lunaire. Et donc les Pâques chrétiennes auraient été célébrées le même jour que les Pâques hébraïques qui célèbrent, qui commémorent l'exode hors d'Égypte, la consommation des pains non levés, des pains azimes et de l'agneau pascal, dans la nuit qui précède le jour en question, la nuit de la pleine lune. Et ça aurait fait une fête de Pâques qui, certaines années, aurait changé de jour dans la semaine. Certaines années, elle aurait été célébrée le dimanche, une autre année le lundi, le mardi, etc. Alors d'autres, et c'est assez curieux, auraient voulu, c'était vrai en Irlande et dans les pays celtiques, conserver, ou plutôt utiliser pour fixer la date de Pâques, ce qu'on appelle les computations, si vous voulez, du calendrier celtique, druidique, qui était un calendrier de type lunisolaire décalé, assez semblable au calendrier hébraïque, sans trop. Et d'autres, enfin, les chrétiens occidentaux de tradition romaine ont tenu à instituer un comput pascal lunaire en rapport avec l'équinoxe de printemps, mais qui était différent des computs à la fois hébraïques et druidiques. On a donc, si vous voulez, une fête qui, même chez les orthodoxes qui ont conservé le calendrier julien, différent de notre calendrier grégorien, chez les orthodoxes, la fête de Pâques est encore plus tardive que chez nous, un pays de latinité romaine catholique. Alors cette fête de Pâques, donc, est une date clé dans le calendrier de l'Europe ancienne. Je vous disais qu'elle rassemble en elle les apports culturels successifs de plusieurs strates et populations et cultures et civilisations. Dans nos régions et dans toute l'Europe, surtout l'Europe du Nord-Ouest, elle a hérité, et c'est ce qui a fait son succès, du fait que, par assimilation dans le monde romain des langues et des cultures germaniques, par christianisation de l'Europe germanique et même de l'Europe slave, christianisation qui ne s'est vraiment achevée qu'aux alentours de l'an 1000, la fête de Pâques chrétienne a recouvert les rites, les traditions, les coutumes, les légendes, les mythes, d'une très vieille fête de toute l'Eurasie et de, je dirais plutôt, du monde indo-européen, qui a pris différents noms et différentes formes, qui chez les Germains anciens avait le nom de Ostara, que l'on retrouve dans l'allemand Ostern, dans l'anglais Easter. Easter, la fête de Pâques, c'est en fait la fête d'une divinité de la nature qui se régénère au printemps, divinité de la végétation revivissante au printemps, divinité féminine. Et le nom de cette divinité, Ostara, Easter en anglais, Ostern en allemand, a la même racine que celle qui, dans nos langues modernes, désigne l'Est. Du reste, le mot même de l'Est, en français par exemple, est un mot d'origine germanique. En occitan, on dira Leban, l'Uleban. En latin, Oriens. C'est-à-dire l'Orient, le point de l'horizon où le soleil naît. C'est le verbe latin qui signifie naître. C'est-à-dire le fait de sortir de quelque chose, de se lever, de s'élever, de sortir hors du monde des ténèbres. Donc c'est la fête par laquelle on célébrait le levant solaire, le lever du soleil, le lever printanier du soleil au jour où la durée du jour solaire devient plus longue que la nuit. Et cette fête de printemps est donc aux origines une fête d'équinoxe qui marquait les lieux, le temps, l'espace, l'univers-temps, le calendrier, et on voyait en ce jour-là coïncider tout ce qui est à l'est, à tout ce qui est au printemps. Au fond, il y avait une espèce d'assimilation qui était faite entre l'Orient du monde et le printemps. L'Orient du monde étant caractérisé par la couleur verte, qui était aussi celle, donc, du printemps. Alors qu'inversement, l'Ouest, au couchant automnal, était caractérisé par la couleur rouge, le Nord hivernal par le noir, et le blanc estival par le sud. Le vert, donc, dans l'optique, la mentalité de ces populations de l'Europe germanique ancienne en voie de christianisation, en est venu à signifier pour eux la résurrection du Christ au matin de Pâques. Cela reprenait de vieux rites du retour de la végétation, de la reviviscence de la végétation au printemps. Or, dans la liturgie de l'Église catholique, Pâques est marqué par le fait que le prêtre revêt des ornements blancs. C'est-à-dire que dans la liturgie de l'Église catholique, c'est le blanc estival des populations du Nord qui figure la représentation du Christ au matin de Pâques. Il y a donc, si vous voulez, un décalage, il y a une substitution à la fois des orientations et des couleurs, des formes, des symboles qui vont avec chacun des points de repérage dans l'espace et dans le temps. Est, ouest, nord, sud, l'est c'est le printemps, l'ouest c'est l'automne, le nord c'est l'hiver, le sud c'est l'été. Alors ceci peut paraître un peu compliqué, mais c'est assez intéressant quand on sait qu'on retrouve cette vision des choses dans une église de la vallée de la Seuno, la Seuno pour ceux qui ne connaissent pas l'Occitan, l'église Saint-Jacques, au cimetière de Las Buigues. Las Buigues, Laibuios, je vous l'ai dit quelques fois, ça veut dire le lieu défriché. C'est un toponyme qui ne peut apparaître qu'à partir de 900 de notre ère, du fait de l'utilisation de l'article défini. Et dans cette église Saint-Jacques de Las Buigues, Saint-Jacques étant Saint-Jacques le Majeur fêté le 25 juillet, saint patron de l'Espagne, c'est le saint de la Voie lactée, si on va par là, ce qui fait du reste, à mon avis, dans l'imagination des vieux Quercinois de la vallée de la Séoune, une projection au sol de la Voie lactée dans le ciel. Donc dans cette église devenue simple chapelle cimétériale de Saint-Jacques à Las Buigues, le sol, très curieusement, et peint en vert, et la voûte en blanc. Et j'y étais une fois lors d'une promenade en vélo, je visitais la chapelle, et il y avait là un couple auquel je faisais remarquer la chose. Cette dame me dit « Mais je croyais que pourtant, la couleur de la résurrection, c'était le blanc, et non pas le vert. » Je dis « Oui, madame, ici, regardez, c'est le sol qui est peint en vert, la voûte en blanc. » Or, pour tout égyptologue, on le sait, le vert, c'est la couleur d'Osiris. Les Osiris végétants, le dieu qui naît, qui meurt et qui renaît. L'époux et le frère d'Isis, Isis la blanche, la déesse lunaire. On aurait donc, dans ce vieux pays de Quercy-Blanc, quelque chose qui, je ne sais trop comment ni pourquoi, ferait écho à de vieux computes, à de vieilles disputations et à tout ce qui a pu contribuer à former dans l'imaginaire des populations médiévales la symbolique de la date de Pâques. Nous allons maintenant passer à une première partie consacrée à Pâques, temps des origines, temps sacral, donc évidemment propice à la formation de rites, de tabous, d'interdits, de commandements, et tout ce qui fait les traditions populaires tournant autour de Pâques et de la Semaine Sainte. Nous allons d'abord écouter un peu de musique. La fête de Pâques introduit les vieux pays de l'Aquitaine garonnaise, le vieux Quercy-Blanc, dans la moitié claire de l'année. On avait la tradition, par exemple, de changer de vêture pour Pâques. On s'habillait en vêtements d'hiver de la Toussaint à Pâques, en vêtements d'été de Pâques à Toussaint. Ça reproduisait la vision celtique du calendrier qui divisait l'année en deux moitiés, une moitié claire du printemps à l'automne, une moitié sombre de l'automne au printemps. Vous prendrez pour ça l'enquête ethnographique menée par la Talbera sur le canton de Lozère, c'est très bien expliqué. Le chanoine Sol dans son vieux Quercy en parle également. D'abord, définirons un peu ce que c'est que la Semaine Sainte. Elle commence avec le dimanche des Rameaux, dimanche qui précède celui de Pâques. Dimanche des Rameaux qui est connu par les rites et traditions tournant autour des rameaux de buis bénis ou de laurier bénis, et qui est très bien illustré par la fresque du mur nord du cœur de l'église Saint-Pierre de Rouillac, à 3 km au sud de Montcuq. Et cette Semaine Sainte commençant avec les rameaux est scandée par des dates bien particulières, jeudi saint, vendredi saint, jeudi saint institution de l'Eucharistie, de la communion si vous voulez, vendredi saint crucifixion et mort du Christ, sa passion, samedi saint, qui est le temps intermédiaire où on attend la résurrection, et dimanche de Pâques, résurrection du Christ. Alors, elle a été propice à la formation, tout comme les 12 jours entre Noël et les jours des rois, de multiples rites, tabous, interdits, commandements positifs et négatifs. Il y a quelque chose que je ne veux pas oublier de citer. Dans ses contes de Gascogne, Contes de Gascogne, Jean-François Bladier, à moins qu'il ne s'agisse des auteurs des Contes d'Eusmunts et d'Erras Arriberas, des Pyrénées, Contes des Monts et des Vallées, des Pyrénées, nous raconte une légende de la vieille Gascogne, des vieux pays aquitains, comme quoi, chacun des 7 jours de la Semaine Sainte, toute personne sensible, je dirais, aux forces de la nature, toute personne en accord avec la nature est sensible à tout ce que le paysage, l'état de l'air, de la lumière, de la végétation, nous fait pressentir. Toute personne qui va se promener dans les bois et forêts chacun des matins de la Semaine Sainte entend chanter dans les frondaisons un petit oiseau. Et chaque jour, le chant de cet oiseau change. La mélodie n'est pas la même. On suit une espèce de progression initiatique qui, d'un jour à l'autre, par le chant de l'oiseau qui se modifie, se reprend, roule sur lui-même, ce module, ça me fait penser au fameux vers d'un troubadour, « Dreit esqueie lumiei u refragno, cum lu rossignolet sul ram sundus wolf refrane et aplano. » Comme le rossignolet sur son rameau son doux chant reprend, modèle, module, roule et harmonise. Et il y a dans le récit de Jean-François Bladier l'évocation d'une espèce de ritualité, de progression, d'ascension dans la Semaine Sainte à l'audition du chant du petit oiseau au lever du soleil dans les forêts de Gascogne, lorsque le soleil s'épand sur la ramure et traverse les rameaux encore sombres où pointent les premiers bourgeons. Il y a la découverte d'une vérité qui éclate, qui explose, qui s'impose au matin de Pâques. Je n'ai pas pu arriver à retrouver la citation exacte. Mais, si vous voulez, ça ferait de la Semaine Sainte dans les vieux pays de Gascogne et d'Aquitaine une période qui est propice à l'observation d'une initiation, d'un parcours initiatique, et qui est marquée notamment alors, par des traditions, des tabous et des interdits. Alors, par exemple, c'est bien connu, le jeudi saint, on ne travaillait seulement que le matin. L'après-midi était réservé aux actes religieux, aux actes liturgiques. Le matin du jeudi saint, il était recommandé de faire tous ses semis au jardin. Le succès était assuré. Un exemple simple, le persil. Et ça, je peux vous le garantir d'expérience. C'est vrai que semer son persil le jeudi saint au matin, même sans protection sous forme de tunnel plastique, même en plein air, c'est assuré le semis, le succès du semis. Alors, certaines personnes très pieuses ne semaient les fleurs de son jardin qu'après l'office du jeudi saint, car elles tenaient pour assurer que les fleurs semées l'après-midi du jeudi saint après l'office étaient toujours doubles. Le vendredi saint, inversement, était un jour de repos total, aucun travail. Travailler la terre l'aurait faite saigner, donc aucun semis. C'est du moins vrai, d'après ce qu'on m'a raconté, dans la vieille Aquitaine d'entre Loire et Garonne, car j'ai connu à mon cul un monsieur de Saint-Jean, qui était du reste un dévot de Saint-Jean-le-Froid, et c'est par ses ancêtres, il venait de la Gascogne. Et pour lui, c'était l'inverse. Il faisait tous ses semis de jardin le vendredi saint. Car il me disait, il les tenait pour assurer que le sang du Christ, qui coulait sur la croix le vendredi saint, fécondait la terre. Pour cela, vous regarderez dans le cœur de l'église de Rouillac le mur de fond, le mur absidal, avec la figuration du Christ mort sur la croix. Vous avez un tableau dans l'église de Saint-Géniès, un tableau du XIXe siècle qui montre Sainte Marie-Madeleine au pied de la croix, recueillant le sang du Christ dans une coupe qui va devenir le fameux Saint Graal du Moyen-Âge. Et Saint-Vincent en rapport avec le vin, avec la vigne et le vin. Donc là, toute une symbolique qui tourne autour du sang du Christ, qui est un véritable vin consacré. Le vin de l'Eucharistie, c'est le sang du Christ. Mais le sang du Christ, c'est le vin sublimé. C'est le vin hyperstasié. C'est le vin devenu divin, en quelque sorte, sans jeu de mots. Au fond, qu'est-ce que c'est? C'est le flux de l'énergie universelle qui parcourt tout l'univers et qui l'anime. Et pour des populations anciennes, songez que par exemple, boire l'eau de certaines sources, sans laver, comme celle de Saint-Jean-le-Froid, de Saint-Pantaléon, de Saint-Julien à Rouillac, c'était communier non pas au sang du Christ, mais à l'eau qui a coulé du flanc du Christ, percée par la lance du soldat longin, le soir du vendredi saint. Quand le prêtre du temple de Jérusalem, du nom de Nicodème, a voulu récupérer le sang du Christ, Pilate s'est inquiet de savoir s'il était mort. Et le centurien longin lui a assuré que le Christ était mort, puisque, ayant percé le flanc du Christ de sa lance, il en a coulé du sang et de l'eau. Alors, pour des populations anciennes, boire l'eau de certaines sources qui sont des résurgences de sources sacrées, c'était communier à l'eau qui a coulé du flanc du Christ. C'était particulièrement, en quelque sorte, intéressant pour des populations par ailleurs excommuniées, ne pouvant pas communier à la messe du vendredi saint, à l'office du vendredi saint, ni à celui de Pâques. Pensez à des cathares, par exemple. Eh bien, qu'est-ce qu'on faisait? On allait boire l'eau, par exemple, de Saint-Jean-le-Froid. Ça revenait un peu à la même chose. Et cette eau qui a coulé du flanc du Christ, comme ce sang, c'est le flux de l'énergie universelle. D'où un rite du samedi saint, après la bénédiction des eaux nouvelles par le prêtre curé de la paroisse, par l'évêque dans la cathédrale. On allait chercher à l'église paroissiale de l'eau bénite que l'on conservait en bouteille. Cette eau bénite passe pour ne jamais se corrompre et elle sert toujours à des usages pieux, très orthodoxes, et à des rites talismaniques christianisés contre les orages, les tempêtes, etc. etc. On s'en sert, l'eau bénite avec laquelle on bénit le corps d'un défunt dans la famille ou le cercueil au cimetière. Alors il y a un autre rite qui... Mes chers, c'est en fin de matinée du samedi saint, je sais par expérience que tout, alors là je vais être, ne me prenez pas trop au sérieux, les chamans herboristes du Quercy Blanc, du Quercy Albin, sont alors pris d'une pulsion irrépressible. Il leur faut à tout prix parcourir leur jardin et y cueillir maintes herbes sauvages, comestibles, qu'ils mangent en potée verte ou mieux, à peine braisées à la poêle, la padeno. C'est un rite qui est apparu dans le Quercyblanc récent, on ne sait pas trop à quelle tradition le rattacher. Alors nous allons maintenant parler d'autre chose, la mythologie de la Semaine Sainte par les proverbes, à partir des rameaux jusqu'à Pâques. Un petit moment de musique vous est offert. Nous allons continuer la mythologie de la Semaine Sainte par les proverbes. Alors, les proverbes, ils sont connus. Vous avez celui qui traite du jour des rameaux. Le jour des rameaux, c'est une date clé pour la météorologie de l'année agricole, de l'année tout court même, de l'année qui vient. Vous connaissez le fameux proverbe. Quand pleut sur le rampan, pleut sur le boulan. Quand il pleut sur les rameaux, les branches de buis ou de laurier bénis du dimanche des rameaux, il pleuvra sur la faucille des moissons. La faucille des moissons, c'est le boulan. Alors cette faucille des moissons, elle m'a fait penser au fameux croissant lunaire du poème de Victor Hugo dans la légende des siècles, Bose endormi. Et Ruth se demandait quel moissonneur de l'éternel été avait en s'en allant négligemment jeté cette faucille d'or dans le champ des étoiles, dit Victor Hugo en parlant du croissant lunaire. Un calife abbasside du Xe siècle verra dans le croissant de lune une faucille, un croissant qui fauche les narcisses. Pour les paysans du Quercy, la pluie sur les rameaux bénis de laurier ou de buis provoquera nécessairement une pluie sur la faucille des moissons. Faucille des moissons qui est peut-être tout simplement l'évocation du premier croissant lunaire après la Saint-Pierre d'été, après le solstice d'été, quand alors commençaient les moissons, car on me disait qu'on ne commençait les moissons que pour la Saint-Pierre. Donc il se pourrait qu'il y ait là l'évocation d'un vieux calendrier lunaire qui fixait la date de début des moissons à la nouvelle lune après le solstice d'été. Ce serait pas impossible. Mais le poème de Victor Hugo assimile les champs de blé aux champs des étoiles du ciel nocturne. Ça fait penser aux contes provençaux de Roumanille et de Mistral à propos des moissons. Le fameux conte où Jésus, Saint-Pierre et Saint-Jean, visitant la Provence, proposent leur service à un paysan de Provence, achève en l'espace d'une matinée la moisson de champs immenses qui normalement demandaient des semaines. Ce paysan provençal, très près de ses sous, refuse de les payer. Jésus, Saint-Pierre et Saint-Jean s'en vont en lui disant qu'à l'avenir, il n'aura plus d'excellente moisson que s'il y met le feu. Ce paysan leur demande « Comment avez-vous fait pour faire la moisson si vite ?» Il leur dit « Mais c'est pas compliqué, nous avons mis le feu au champ de blé. Et c'est pour ça que nous avons si vite ramassé. » Alors ce paysan refuse de payer le trio descendu du ciel. L'année suivante, il met le feu à ses moissons, évidemment, il ne récolte rien. Et donc ça nous montre un peu le lien qui est fait entre le monde céleste et le monde agricole, et surtout celui de la production des blés, des céréales. Il faut savoir que dans nos régions, les lauriers, les buis bénis, le dimanche des rameaux, après la lecture de l'évangile de la Passion, qui est un évangile très long, on disait long comme l'évangile des rameaux, ces lauriers bénis et ces buis bénis étaient sont supposés être empreints de vertu, de pouvoir, de puissance. On s'en servait pour des rites de protection de la famille, de la maison, de bénédiction des champs, de bénédiction des étables. Ils avaient donc un vrai pouvoir sur la nature. Ils étaient le vecteur, l'objet, l'instrument par lequel la mère de famille, c'était toujours la mère de famille, par des rites particuliers christianisés, assurer la protection de la maison et des récoltes contre les aléas de la météorologie. Et on peut dire que pour le vieux Quercy ancien, les lauriers bénis du dimanche des rameaux captaient les pouvoirs sacrés de la nuit de la résurrection. Parce que par le laurier, c'est le Christ ressuscité qui régit la nature. Planter des rameaux de laurier bénis dans les champs, en déposer au cimetière, insérer dans les branches de la croix, était un acte de propitiation des forces de la nature, d'affirmation de la foi des ancêtres. Car il ne faut pas oublier que dans la vieille Aquitaine, les ancêtres participent à la vie des vivants. Les ancêtres ne sont pas morts. Nous sommes comme en Afrique noire. Les ancêtres sont toujours présents dans le cimetière. Ils animent toujours la vie du village. Et donc les rameaux bénis influaient sur l'abondance des récoltes, notamment des moissons, donc du pain, à travers l'Eucharistie, d'où le proverbe qui veut que le temps des rameaux sera aussi celui des moissons. Alors le dimanche des rameaux est introduit à cette semaine sainte par un autre proverbe qui est encore bien connu et qui est répandu dans toute l'Europe, je vous le dis en occitan, « L'ouben que buffo pels rampans buffara tout l'an ». Le vin qui sera béni par le prêtre le jour des rameaux soufflera toute l'année. Alors est-ce qu'il faut y voir une référence à la vieille étymologie du nom de Dieu dans les langues sémitiques ? Le radical avec l'explosive glottale Hamza suivi du L, le Lamed hébreu, le Lam arabe, qui désigne le Très-Haut. Est-ce que ce ne serait pas plutôt une référence à une autre racine qui désigne alors dans la pensée chrétienne, catholique, depuis le concile de Nicée, la conception qu'on se fait de Dieu comme trine, c'est-à-dire Dieu un et unique en trois personnes, consubstantielles et coéternelles. Il faut savoir que en hébreu comme en arabe, le radical qui désigne le vent, le souffle, le vent qui souffle le jour des rameaux, ruh en arabe et ruach en hébreu, en grec c'est pneuma, en latin c'est spiritus, ça désigne le souffle, le vent, c'est le flux de l'énergie universelle instillé par Dieu dans les narines d'Adam après la formation d'Adam à partir de l'argile du sol. Dieu prend de l'argile du sol, il la mouille de sa salive, forme un homme, anime celui-ci en insufflant dans ses narines le souffle éternel, le souffle de l'énergie divine. Et c'est aussi la vision d'Élie qui, en temps passé, l'ouragan, en tempête, puis un vent modéré et enfin une brise légère. Et la Bible nous dit « Et Dieu était dans la brise du jour ». C'est donc une idée pansémitique qui fait du souffle, du vent, la manifestation de Dieu et du Dieu très haut, El Elyon, la même racine que celle qui va donner Allah en arabe. Alors ce souffle divin de l'énergie universelle régirait donc toute l'année. Et ce serait la bénédiction du vent par le prêtre, curé de la paroisse, qui définirait quel serait le vent, la manifestation de Dieu de l'année. Au fond, le prêtre de la paroisse agirait comme une espèce de chaman qui commanderait au vent, à la pluie, au temps qu'il fait. Il serait, si vous voulez, un chaman chrétien. Ce serait fondé sur les fameuses scènes de l'Évangile qui nous montrent le Christ sur un bateau en plein lac de Tibériade déchaîné par la tempête et le Christ commandant au vent et à la mer qui se calment et qui retrouvent leur sérénité sous l'effet de la parole du Christ. Un pouvoir sur la nature qui serait lié à la nature divine du Christ et que l'on retrouverait dans les pouvoirs prêtés par les populations aux prêtres curés des paroisses du monde de l'Europe ancienne. Alors après cela, je vais vous parler un peu d'autre chose, toujours dans cette mythologie, à savoir les proverbes qui tournent autour de Pâques. Je pense que vous allez avoir un peu de musique avant de passer à la dernière partie.
Pendant l'hiver, la neige a souri. Pendant l'hiver, les fleurs ont dormi.
Le jour de Pâques est arrivé dans la lumière. Et le printemps s'est réveillé sur notre terre et dans nos cœurs, et dans nos cœurs. Pendant l'hiver, les arbres étaient nus. Pendant l'hiver, rien ne chantait plus.
Le jour de Pâques est arrivé dans la lumière. Et le printemps s'est réveillé sur notre terre et dans nos cœurs et dans nos cœurs.
Après l'hiver, on a dans les yeux, après l'hiver, un coin de ciel bleu.
Après l'hiver, on met dans son cœur, après l'hiver, tout plein de couleurs.
Le jour de Pâques est arrivé dans la lumière, et le printemps s'est réveillé sur notre terre.
Alors, Pâques et la météo du printemps. Alors, il y a un proverbe que j'ai appris il y a de ça bien longtemps, dans les années 65-70. C'est Aster Deltey, le dernier cordier de mon cul, qui m'a appris ça. On était entre Pâques et la Saint-Jean, il faisait un orage épouvantable. Les ruelles et les rues de mon cul qui étaient transformées en ruisseaux et en torrents débordants. On marchait dans l'eau plus haut que les chevilles et Aster Deltey s'était réfugié dans la boutique de mes parents. Et ne pouvant pas rentrer chez lui à peine 50 mètres. Et il m'a appris le proverbe en question. « Da Pascos cap a San Juan, la plaie so ben d'Alleban. » De Pâques à la Saint-Jean, solstice d'été, la pluie vient du levant. Or, le levant, qu'est-ce que c'est? C'est le point de l'horizon d'où nous vient le vent d'OTAN. En fait, il faut comprendre que de Pâques à la Saint-Jean, c'est le vent d'OTAN venu du golfe du Lion, donc de la Méditerranée, qui nous apporte de la pluie. Alors, les météorologues et climatologues des années 70-80, qui avaient fait beaucoup de recherches sur ce phénomène, s'étaient aperçus que 60% des hauteurs d'eau annuelles tombaient sur le bassin aquitain entre Pâques et la Saint-Jean. On appelait ça la mousson aquitaine, et qui était déclenchée par la formation de dépressions qui se creusent sur l'Atlantique au large du Portugal, dépressions qui se renforcent sur le golfe du Lion et qui reviennent sur le Languedoc et se débouche et s'assèche, donne naissance au vent d'OTAN qui est comprimé par le passage du seuil de Norouze sur nos régions, et vent d'OTAN qui ensuite annonce l'arrivée de perturbations encore plus fortes venant par contre du golfe de Gascogne. Bon. Alors, ce vent d'OTAN, pour nos anciens, il venait du levant. Le levant, qu'est-ce que c'est? L'Ouléban. Bien, c'est l'Orient, c'est le lieu qui, dans la Bible, est celui où Dieu a planté un jardin. Et Dieu planta un jardin à l'Orient, en Éden. Alors l'Orient en hébreu, c'est Kadim, c'est le lieu des origines. Éden, c'est la steppe, Idinou, c'est du sumérien, c'est beaucoup plus vieux que l'hébreu. Repris par le dialecte de Babylone, l'acadien, et passé ensuite en hébreu. Alors Dieu planta dans la steppe un jardin à l'Orient, c'est-à-dire aux origines, au point de l'horizon qui est celui à la fois où naît le soleil et qui est aussi celui des origines du monde. Donc il y a à la fois, si vous voulez, dans cette pensée, une coïncidence, une correspondance entre le lieu et le temps des origines. Le monde est né à l'Orient. Et l'Orient, c'est à la fois le lieu et le moment et le temps de la création, de la formation du monde, de l'apparition du monde, de la création. Il y a une chose qu'il faut retenir, c'est que dans notre pays de Quercy-Blanc, Moncuquiol, de Moncuc, il y a un lieu qui n'a plus beaucoup de sacralité dans les mentalités, mais il en reste quelque chose dans la toponymie, et dans les rapports de ce lieu avec les sculptures de l'église de Saint-Donès, qu'il domine. Ce lieu, c'est le pêche de Belliki. Alors, le pêche de Belliki, Mon Belliki, c'est le Bellikinus. Ça veut dire le chien, c'est-à-dire le loup de Belos, Belos Lug, le dieu suprême des Celtes. Et ce n'est pas sans intérêt lorsque l'on sait qu'encore au XVIe siècle, les notaires de Moncuq, quand ils instrumentaient à propos de questions foncières, donations de terres et autres, peu importe, sur le pêche de Belliki, appelaient le soleil, levant et couchant, non pas « lou soulel leban, lou soulel kulk », kulk ça veut dire couchant, attention. Mais il disait « lou loup bel leban, lou loup bel kulk », le loup beau se levant, le loup beau se couchant. Pour eux, le soleil, c'était le loup beau. Or, dans la description qu'ils font du paysage, ils commencent toujours par l'est. De l'est, ils passent à l'ouest, de l'ouest au sud, du sud au nord. C'est assez curieux. Ça voulait donc dire que, dans la vieille mentalité du Quercy-Blanc médiéval, telle que conservée autour de ce lieu de Belliqui à Saint-Donès et du lieu même de Saint-Donès à travers les sens profonds de ces sculptures, on cultivait l'idée que le levant, c'était le point où certes le soleil naissait, mais on assimilait ce soleil à un loup beau. Ce loup beau, qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est le Bélénos des Gaulois, c'est l'Apollon des Grecs. C'est le dieu soleil, Phoibos, Helios, Phoibos. Le Helios, Helios c'est le soleil, Phoibos ça veut dire le brûlant. Donc dans nos régions, il y aurait eu longtemps la conservation de rites et de mythes dont il ne nous reste plus que des évocations très évanescentes dans la micro-toponymie et souvent dans les sculptures de nos églises. D'autres rites intervenaient et scandaient la Semaine Sainte. J'avais complètement oublié d'en parler, à savoir le fameux rite redoutable dont je ne connais l'existence que dans quelques régions de France et d'Europe, l'interdiction des lessives pendant la Semaine Sainte, car laver du linge pendant la Semaine Sainte, c'était laver son linceul. D'autres interdictions interviennent au sujet du travail de la terre le vendredi saint, l'après-midi du jeudi saint, les rites autour de l'eau bénite, des lauriers bénis, mais il y a surtout d'autres rites beaucoup plus alors agréables à évoquer. Dans nos pays de l'Aquitaine garonnaise, du Quercy blanc, du Quercy méridional, c'est le rite qui consiste pour les rameaux, le lundi de Pâques, le lundi de Pentecôte, à aller au bord des ruisseaux, à l'ombre des arbres, sur l'herbe, manger la coque. La coque, ce gâteau particulier à nos régions, dont je n'ai retrouvé l'équivalent que sous forme de la mouna maghrébine, et la coque que l'on mange avec du vin blanc, liquoreux, moelleux, local, alors vin blanc de Charrie à Montcuq, de Mont-Lauzin ou d'ailleurs. Et alors cette coque qui est un gâteau particulier à nos régions, qui marque le début, qui est les fêtes de printemps, depuis le jour des rois, les rameaux, Pâques et Pentecôte. Cette coque, on allait la manger ou au bord des ruisseaux, ou bien dans la campagne, dans les petites maisons des vignes, qui étaient souvent pourvues de tout le matériel nécessaire pour faire de la cuisine, une cheminée, un évier, un point d'eau, un puits ou une source. On y passait les après-midi de ces fêtes religieuses ou les lendemains, lundi, Pâques et Pentecôte. Ces rites me rappellent les fêtes romaines archaïques de la pleine lune de mars où on allait effectivement au bord du Tibre, dans la campagne romaine, manger des gâteaux et boire abondamment du vin blanc, enfin du vin, disons. On en revenait, nous dit Georges Dumézil, dans ses fêtes romaines d'été et d'automne, à partir des œuvres de, je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'est à partir d'Ovide qu'il a rédigé sa religion romaine archaïque, Georges Dumézil nous dit que les Romains de l'Antiquité revenaient de leur excursion dans la campagne romaine pour la pleine lune de printemps, couronnés de violettes, mais plutôt en état d'ébriété avancée et prononcée. Alors, ces rites sont à l'origine, ou du moins sont en rapport avec l'organisation, l'aménagement de l'espace urbain autour de nos bourgs et villes, de nos petits villages ou de nos campagnes, avec ces fameuses maisons des vignes, ces caselles, ces cariotes, qui, comment dirais-je, ponctuent toutes les campagnes entre la vallée du Lot au nord et celle de la Garonne au sud. L'autre tradition étant évidemment la récolte des œufs de Pâques au matin de Pâques, par les enfants, eux que l'on cache un peu partout dans les jardins. Mais pour l'origine, ça provient de deux choses. D'abord, l'interdiction pendant tout le carême de manger des œufs et des produits carnés. Donc l'accumulation de réserves d'œufs, on ne savait pas que faire. Et aussi autre chose, l'obligation qui était faite aux paysans tenanciers de terre de verser pour Pâques des redevances annuelles aux seigneurs concédants sous forme d'œufs, ou d'œufs, disons pour toi à la française. Il fallait donc porter au castel du seigneur foncier, pour Pâques, les réserves d'œufs accumulées pendant tout le carême. Que pouvait-on faire de ces X douzaines d'œufs ? Je me le demande bien. On devait faire des omelettes, des crêpes, des gâteaux, d'où la coque, évidemment. Et cela rejoindrait peut-être aussi ce qui est la symbolique de l'œuf, mais qui est un ajout moderne, récent. Alors, symbolique de l'œuf comme symbole du retour à la vie et de résurrection. Alors, ces traditions de la Semaine Sainte, depuis les rameaux jusqu'à Pâques, qui sont des traditions purement occitanes, qui ne sont pas que carcinoles, vous les trouverez sous d'autres formes dans le reste de l'Europe, mais dans nos régions, évidemment, elles ont pris tout le charme des choses du passé, qui nous permet de rêver et d'imaginer nos pays d'oc tels que peut-être qu'ils ont été, du moins dont nous percevons la, comment dirais-je, la nature profonde, l'essence profonde à travers ses rites, ses coutumes, ses traditions et l'interprétation quelquefois un peu forcée que nous en faisons. C'est ce que l'on a dit de Mistral, la Provence de Mistral est une Provence rêvée et imaginaire. C'est aussi, paraît-il, la vision qu'ont du Moyen-Âge beaucoup d'historiens, même universitaires et médiévistes. Ça arrive, paraît-il, à de certains. Je ne vous en dirai pas plus. Alors, nous nous reverrons une autre fois. Il y a beaucoup de choses à dire. Le printemps s'y prétend particulièrement. Alors, à une autre fois et portez-vous bien d'ici là. Au revoir.